Vous êtes sur RTL.
Le grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Marion Mourgue du Figaro. Bonjour Marion, bienvenue. Et Adrien Gindre de TF1 LCI. Bonjour.
Bonjour
Adrien. Comme d'habitude, vous pouvez réagir en direct, hashtag Le Grand Jury sur les réseaux sociaux. Et vos questions seront posées en fin d'émission à notre invité par Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL. Alors Gérald Darmanin, pendant toute cette crise sanitaire, vous êtes resté plutôt discret. Mais c'est maintenant à vous de jouer, à vous de mettre en musique budgétairement toutes les mesures qui ont été annoncées récemment pour soutenir l'activité économique et qui vont forcément creuser la dette. La France peut-elle d'ailleurs se le permettre, alors que nous avons dépassé les 100% du PIB? Déjà en 2007, l'ancien Premier ministre François Fillon avait prévenu que la France était en situation de faillite. Et c'est sans compter le plan de relance promis par votre gouvernement à la rentrée prochaine qui, on l'imagine, se chiffrera en milliards d'euros. Nous en parlerons dans cette émission. Ce monde d'après devrait aussi s'incarner dans un changement politique avec à la clé un remaniement d'ampleur du gouvernement. Alors qu'hier à peine, Gérald Darmanin, vous avez été réélu maire de Tourcoing, quelle sera votre place dans ce nouveau dispositif? Il se murmure que pour remplacer Édouard Philippe, eh bien Emmanuel Macron s'est mis en quête d'un chevènement moderne. Et hasard ou heureuse coïncidence, dans l'interview que vous donnez aujourd'hui en une du journal du dimanche, vous citez l'ancien ministre de l'Intérieur comme l'une de vos références politiques. Vous dites même que vous avez voté pour lui en 2002. Alors je vous pose la question, Gérald Darmanin, pour commencer cette émission. Si le chef de l'État vous propose de devenir Premier ministre, est-il possible que vous le refusiez?
Nous avons un excellent Premier ministre, Édouard Philippe. En plus d'être mon ami, et grâce à lui je suis rentré au gouvernement, je peux vous dire que pendant ces 3 ans en tant que ministre des Comptes Publics, et singulièrement pendant cette période extrêmement difficile que connaît notre nation, il a tenu la barre, et il a montré de la perspective et il sait travailler avec ses ministres. Donc moi, personnellement, je suis soutien loyal, fidèle du Premier ministre et je ne souhaite pas qu'il puisse changer.
Vous ne répondez pas à ma question, Gérald Darmanin. Si vous dites dans l'interview, je ferai ce que le président me dira de faire, s'il vous propose de devenir Premier ministre, direz-vous non?
Ce qui est intéressant, ce n'est pas l'avenir des uns et des autres. Ça nous intéresse et je comprends que vous posiez des questions politiques, peut-être même un peu politiciennes. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on fait pour le pays. Qu'est-ce qui s'est passé? La France s'est pris, comme beaucoup de pays, comme quasiment tous les pays, à 33 tonnes dans la figure. Comme on pourrait dire vulgairement. Ce n'est pas des décisions du gouvernement qu'est née la crise économique et sociale. C'est bien de quelque chose d'imprévisible, le Covid-19.
On va y venir.
Et jusqu'à présent, pardon, permettez-moi de le dire quelques instants. Jusqu'à présent, la politique économique, fiscale, sociale menée par le Premier ministre sous l'autorité du Président, elle fonctionnait. Nous avions le chômage le plus bas depuis 15 ans. Nous avions la croissance la plus forte de la moyenne européenne. Notre déficit, notre dette baissait. Les impôts baissaient, le pouvoir d'achat des Français augmentait. Des villes comme la mienne à Tourcoing, mais plein de villes industrielles, reconnaissaient avoir des usines, des entreprises qui s'installaient. Donc il ne s'agit pas de changer pour le plaisir de changer, il s'agit de pouvoir poursuivre, malgré la grande difficulté du Covid-19, l'œuvre de redressement du Premier ministre et du Président.
Marion Mourgue.
Cette interview au JDD, que vous voulez peser davantage sur les choix, alors ça veut dire que c'est à quelle place? Si ce n'est pas Matignon, c'est de quelle manière?
Mais les idées pèsent parfois plus que les hommes. Gramsci, je ne voudrais pas que Gramsci soit Premier ministre, et ce n'est pas ma référence culturelle première, mais
donc
a raison.
Donc les idées dans le débat que
ce qui m'intéresse, c'est faire de la politique. Moi, je me suis engagé à 17 ans au RPR parce que j'aimais le débat politique. J'aime répondre à des questions, j'aime donner mon avis, j'aime échanger avec des arguments, j'aime les militants, j'aime la politique. Je trouve que faire de la politique, c'est beau et c'est noble. C'est parfois difficile, mais c'est beau et c'est noble. Parce que le débat d'idées est intéressant. Donc peser dans le débat d'idées, vous me connaissez depuis un certain temps, vous savez que ça m'intéresse. Après, la place a moins d'importance que le fait de peser dans le débat d'idées.
Gérald Darmanin, qu'on comprenne bien à la fois le cadre idéologique dans lequel vous vous inscrivez, votre parcours. Vous venez de rappeler qu'à 17 ans, vous êtes engagé au RPR. Dans son ouvrage « Tout restera en famille », Ludovic Vigogne, un confrère, rappelait l'année dernière que vous aviez fait la campagne de Jacques Chirac. Et vous nous dites ce matin dans le journal du dimanche que vous avez voté Jean-Pierre Chevènement en 2002. C'est déroutant. Comment est-ce qu'on peut s'engager au RPR, faire la campagne de Jacques Chirac et voter pour Jean-Pierre Chevènement.
Alors, je ne vais pas vous refaire l'historique de ce qu'était la droite française en 97, au moment où j'ai adhéré au RPR. J'ai adhéré pour Philippe Séguin. Et il y avait chez Philippe Séguin à la fois l'énergie, l'histoire, le gaullisme social qui m'intéressait, parce que peut-être était-ce celui qui correspondait le plus à ma sociologie. Et j'ai toujours aimé Philippe Séguin. Chevènement, d'abord, je pense qu'il est toujours moderne. On ne cherche pas forcément un Chevènement moderne.
Il ferait un Premier ministre ?
Non. Chevènement est toujours moderne, mais ça n'a jamais été ma figure tutélaire. Je ne me suis pas engagé à gauche. Séguin ne s'est pas présenté à l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, il a touché, je crois, les limites des hommes qui avaient des idées sans pouvoir les réaliser. Mais c'était un grand homme politique. Et en 2002... j'ai trouvé que Jean-Pierre Chevènement, alors que j'étais militant RPR, en effet, avait eu le courage, sur la question corse, sur la question européenne. Moi, quand j'étais jeune député, j'ai dit non à mon parti politique, qui était l'UMP. J'ai voté contre le traité, proposé pourtant par le président Sarkozy et poursuivi par le
président
Hollande.
Mais en 2002, Gérald Darmanin.
Mais moi, je suis un souverainiste moderne, on va dire cela comme ça. Je ne pense pas que les souverainistes d'aujourd'hui aient raison lorsqu'ils refusent l'Europe, lorsqu'ils refusent l'euro. Heureusement qu'on a eu l'euro pour nous protéger des attaques monétaires qu'on aurait eues si jamais on n'avait pas eu l'euro au moment où nous parlons aujourd'hui.
Non, mais vous comprenez que ça peut être surprenant de faire campagne pour Jacques Chirac en 2002, c'est ce que vous dites. Et en même temps, au moment où vous vous retrouvez devant Lyon, vous votez pour Jean-Pierre Chevènement. Vous vous dites, où est la cohérence politique?
Mais là, je pense très cohérent d'être entre Séguin et Chevènement. Ça me paraît très cohérent. Et par ailleurs, je l'ai déjà dit, Mme Bourgue suit depuis très longtemps la droite française. Elle sait très bien qu'auprès du président Sarkozy, c'était le cas dans mon engagement auprès de Xavier Bertrand, qui avait été séguiniste dans son engagement. Tout au début, d'ailleurs, François Fillon, avant d'être libéral, était un filloniste, séguiniste, pardon. Il n'était pas encore parti sur une explication du monde qui peut se comprendre, mais qui n'était pas la mienne, qui était un libéralisme plus accompli. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait un peu plus de séguinisme dans la vie politique. Et Jean-Pierre Chevènement correspondait à... Alors franchement, on le voit bien symboliquement, parce que son score n'a pas été très important, à ce qui me semble être important dans la vie politique.
Et donc aujourd'hui, vous incarner une forme de souverainisme.
Non mais qu'est-ce que ça veut dire avoir un retour à la souveraineté française? Oui, on voit bien la relocalisation des industries, la protection des intérêts vitaux de la France, mais il ne s'agit pas d'être bêtement souverainiste. D'abord, ça m'arrache le cœur quand j'entends M. Dupont-Aignan, Mme Le Pen, que je compare désormais, s'accaparer l'héritage du général de Gaulle et parfois même citer Philippe Séguin ou Jean-Pierre Chevènement.
C'était la semaine dernière au Grand Jury.
Aujourd'hui, il ne s'agit évidemment pas pour nous de remettre en cause l'intégration européenne. Regardez le président de la République, ce qu'il fait avec Mme Merkel. Voilà, ça c'est une réponse européenne magnifique et c'est ce que nous attendons de l'Europe politique. Mais nous pouvons aussi considérer que la protection de nos concitoyens, la nation française, ça veut dire quelque chose. L'État fort, c'est une demande, je crois, de nos concitoyens par ailleurs. Il y a des valeurs dans le gaullisme social qui sont les miennes. Et sans doute, d'ailleurs, qu'on pourrait en discuter un petit peu plus encore dans le débat politique.
Ça, il faut le faire plus entendre au sein du gouvernement. C'est pas assez porté aujourd'hui?
Je crois que le président de la République est un homme de synthèse et de conviction. Et j'ai toujours trouvé en lui, même quand on me disait qu'il était très libéral, et je suis un libéral politique, bien évidemment. Et je crois en l'esprit d'entreprise. Et je ne pense pas qu'il faille que la tasse s'intéresse à tout et qu'il ne faut pas tout décider de Paris. Mais j'ai toujours trouvé dans le président de la République qu'il y avait une geste gaullienne en lui. La volonté de remettre la France dans le concert des nations, de faire entendre sa voix vis-à-vis notamment des États-Unis, de prôner, je crois, le régalien. Regardez, on en parle peu dans la crise, mais quasiment 2 milliards d'euros d'augmentation de nos armées pour garder notre puissance nucléaire. Un autre président aurait fait sans doute un autre choix. Et moi, j'ai toujours trouvé qu'il y avait, chez Emmanuel Macron, une geste gaullienne.
Donc, évidemment, M. Bertrand n'est pas d'accord avec vous sur ce point-là.
On a le droit d'avoir des différences avec ses amis.
Et est-ce qu'Edouard Philippe peut porter cette nouvelle incarnation, ce virage souverainiste que vous dessinez?
Mais alors, je ne sais pas si... plus ce virage de souveraineté que de souverainisme, si je peux me permettre de vous corriger. J'aime pas beaucoup les ismes en général. Édouard Philippe vient de la même famille politique que moi. Et d'ailleurs, il l'était avant moi. Et je crois que son incarnation d'élu local, son incarnation d'homme d'État, son incarnation auprès d'Alain Juppé et des idées, on sait tous que Édouard Philippe aime l'État et protège l'intérêt général, est tout à fait, bien sûr, capable de l'incarner, et permettez-moi de penser qu'il l'incarne un peu.
Et alors justement, c'est aussi le reproche qu'on lui fait, c'est-à-dire qu'il a une vision très à droite de la politique sociale. Vous dites, vous, il faut mener une politique pour le peuple, réparer les inégalités sociales. C'est pour cela que j'ai rejoint Emmanuel Macron et je crois dur comme fer qu'il peut le faire comme président de la République. Est-ce à le dire qu'il ne l'a pas assez fait?
C'est tout le contraire. La plus grande politique sociale menée, je crois, ces 20 dernières années, et je le vois en tant que maire de Tourcoing, c'est le dédoublement des classes en CP. L'égalité républicaine, c'est ce qu'il y a de plus important. Et c'est sûr que quand on est un gamin de cadre qui habite dans le 16e arrondissement de Paris et qui va dans une école privée, c'est tout à fait respectable, on n'a pas les mêmes chances de réussir dans la vie que quand on est un enfant du quartier de la Bourgogne avec 70% de chômage et de difficultés sociales, comme c'est le cas dans ma ville. Et le dédoublement des classes en CP, non pas dans le 16e arrondissement, mais à Tourcoing, à Roubaix, à Saint-Étienne, dans les villes populaires, au Havre, eh ben je crois que ça, c'est une grande politique sociale. Et le président de la République qui l'a souhaité, mis en place par Jean-Michel Blanquer, c'est ça qui, dans 15 ans ou dans 20 ans, permettra de réparer les grandes inégalités que nous connaissons.
Donc les Français se trompent, ne vous comprennent pas quand ils pensent que souvent ils jugent la politique trop libérale. Ils l'ont manifesté au moment de la crise des Gilets jaunes notamment.
Les Français ne se trompent jamais. Il ne faut pas être sourd aux revendications populaires. Mais ce n'est pas le président de la République actuel qui est le responsable des inégalités criantes que nous avons vues. Il essaye de les réparer. Est-ce qu'on fait tout bien? Non, on ne fait sans doute pas tout bien. Mais je peux témoigner à ma place. J'étais ministre du budget qui a organisé, à la demande du président et du premier ministre, ce dédoublement des classes et qui a augmenté le budget du ministère de l'Éducation nationale. C'est nous qui avons augmenté les minima de ceux qui, empêchés par la vie, comme les personnes handicapées, comme le minimum vieillesse, d'augmenter comme personne n'avait augmenté ces minima. C'est nous qui avons encouragé le travail. La défiscalisation des heures supplémentaires, la suppression des cotisations sociales, la suppression de la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu, elle ne profite pas aux patrons du 440. Elle profite bien aux salariés, aux ouvriers qui voient leurs conditions de vie, comme auraient dit sans doute les gens dans les années 60, améliorées. Donc il faut encore, sans doute, continuer ce travail. Alors, et je suis fier de le faire auprès du président.
Vous êtes fier de le faire au président. Si vous devez choisir au prochain remaniement entre rester au gouvernement et être maire de Tourcoing, que choisirez-vous? Puisque vous avez eu pour l'instant une forme de dérogation temporaire pour cumuler les deux.
Je n'ai pas eu de dérogation temporaire. J'ai été voir le président de la République et le premier ministre en leur demandant la possibilité, c'est moi qui leur ai demandé, de pouvoir exercer mon mandat de maire. Parce que c'est ce que j'avais promis.
Donc ce n'est pas temporaire.
C'est ce que j'avais promis aux électeurs. Ils me l'ont autorisé pour un temps. Quand ce temps sera révolu, quand ils choisiront, et pardon de le dire, ce n'est pas vous qui allez choisir. Bon. Quand ce temps sera révolu et qu'ils demanderont effectivement de mettre, parce qu'ils auront changé la règle, y compris pour moi, ben je m'appliquerai évidemment cette règle que souhaitera le président de la République. Mais moi, je n'ai pas menti aux électeurs. Je suis allé à Tourcoing, dans la commune où vous savez qui me tient à cœur, là où je suis parmi les Tourcainois, je leur ai dit, voilà, je pense que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui pèse au niveau national dans votre commune. Et pardon de l'immodestie, un peu comme Borloo à Valenciennes, parce que Tourcoing, c'est une ville qui souffre.
Enfin, il y a quelques mois, vous disiez l'inverse, vous disiez qu'on ne pouvait pas cumuler les deux et qu'il fallait choisir et qu'il fallait être maire à temps plein.
Je suis allé voir les électeurs et je leur ai dit, si je suis candidat, je serai maire. J'ai dit au président de la République, je vais être candidat à la mairie de Tourcoing, m'autorisez-vous à être ministre et candidat? Il l'a autorisé. Je suis allé le voir au moment où nous allions nous réunir pour élire les conseillers, les conseils municipaux de ceux qui avaient été élus au premier tour. Il m'a autorisé à exercer
les deux fonctions. Mais en 2017, vous aviez accepté de renoncer à votre mandat de maire pour être ministre. Pourquoi ce n'est plus le cas aujourd'hui?
D'abord, en 2017, je vous ferai constater que je suis resté maire et ministre jusqu'au mois d'octobre 2017. J'avais un excellent premier adjoint. Malheureusement, la maladie l'a emporté. Chacun s'en souvient. Et j'avais déjà hésité à revenir dans ma commune, non pas par... pour embêter le gouvernement, c'est un grand honneur de servir la France, mais pour être fidèle aussi à ma promesse électorale.
Mais comment vous expliquez qu'un parlementaire ne puisse pas diriger un exécutif local et qu'un ministre du budget, en temps de crise, puisse gouverner une ville de près de 100 000 habitants? Est-ce qu'il y a une jurisprudence d'Armanin?
Les votes sont pour moi. Quand j'étais député, j'ai voté contre la fin du cumul des mandats, parce que je crois qu'autant le cumul des indemnités sans doute peut être vu, et les gens ne comprennent pas qu'on cumule les indemnités, ce que je ne ferai pas évidemment à la mairie de Tourcoing. Autant je pense qu'un élu local, on n'est pas forcément obligé d'être maire.
Vous pensez revenir dessus?
Non, je ne pense pas qu'il faille revenir dessus.
Sur le cumul des mandats?
Non, mais la France a d'autres problèmes que le cumul des mandats. La France, elle a des problèmes de rétablir son économie, de lutter contre le chômage, de redonner le pouvoir d'achat à nos concitoyens et d'essayer de réparer la fracture
et
sociale.
Et de connexion à la réalité,
comme
dit
le président
Chirac.
Mais je pense qu'un homme politique doit aller devant les électeurs. C'est ce qu'a dit le président de la République. Il a encouragé ses ministres à faire de la politique. Je l'ai écouté. Et je pense qu'un élu local, a fortiori un maire, est sans doute le mieux placé pour entendre les aspirations
de la population. Mais qu'on comprenne bien, Gérald Darmanin, vous dites que ça va durer un temps. Donc ça veut dire jusqu'au remaniement, et vous verrez ensuite. C'est cela que vous nous dites.
Je ne sais pas si on va faire toute l'émission sur des questions politiciennes.
Non, mais qu'on comprenne, parce qu'un temps, on se dit, un temps jusqu'à quand?
Un temps, c'est un temps. Donc moi, je suis très heureux de pouvoir être maire de ma commune. Et j'ai tendance à penser, M. Sportouche, que c'est ce qui fait aussi le sel d'un homme politique, de pouvoir vivre parmi nos concitoyens, de ne pas tous être parisiens, de pouvoir porter des voix difficiles. Et en tant que maire, je continue à faire des permanences, à recevoir les gens. Et je crois que ces permanences m'apprennent parfois plus que les notes de Bercy.
Et une petite précision, vous disiez à l'instant que vous ne toucheriez pas d'indemnité en tant que maire, parce que vous allez les reverser à la SPA, en l'occurrence. Pourquoi ce choix ?
Parce que j'ai toujours beaucoup porté la protection animale. Je pense que ce sont des gens très courageux. Il y a plein de causes qui mériteraient sans doute d'être aidées. Il m'a semblé que particulièrement dans ma commune, et connaissant mon engagement pour la cause animale, je l'ai fait. Mais il y a bien sûr d'autres causes qui pourraient avoir, bien sûr, la solidarité, la générosité des Français.
Marion Bonc. On votera le 28 juin dans les 5000 communes qui n'ont pas encore de maire. Est-ce que vous ne craignez pas une abstention record qui ferait que les maires élus seraient toujours sous le sceau de ce manque de participation ?
C'est une décision très difficile qu'a pris le Premier ministre. Moi, je voudrais la soutenir pleinement. Il n'y avait pas de bonne décision quand on connaît les situations sanitaires que nous voyons aujourd'hui. Mais la démocratie, elle exige quand même qu'il y ait le déroulement des scrutins. Et il y avait quelque chose un peu de difficile à repousser toujours le second tour d'une élection municipale qui avait eu lieu le 15 mars. Voilà. Donc il y a eu manifestement un large consensus ou un quasi-consensus politique. Il fallait prendre cette décision. J'ai entendu que le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce matin a précisé, et je crois avec grande efficacité, la façon dont les Français pourront se rendre aux urnes au mois de juin prochain. Il faut qu'ils le fassent et il faut que la démocratie se déroule correctement. Le Covid ne doit pas arrêter nos débats politiques, le choix de nos représentants. Et on a besoin des maires pour relancer l'économie et pour aider le fonctionnement du pays.
Mais Gérald Darmanin, l'abstention, on est bien d'accord pour dire que ça ne change rien à la légalité de l'élection. Mais en revanche, est-ce que ça n'affaiblit pas la légitimité, la force des nouveaux élus ?
Bah bien sûr, il vaut mieux avoir 100% d'abstention que 5%. Alors l'abstention, elle naît avec le Covid, c'est vrai. Enfin, elle n'est pas propre au Covid. Scrutin après scrutin, vous êtes les premiers à commenter le fait qu'il y a de moins en moins de Français qui vont participer au scrutin démocratique. Et ça fait partie, je crois, des fractures sociales que nous connaissons. Le fait que les Français ne s'intéressent plus autant qu'avant au débat politique détestent en grande partie la classe politique, considérant qu'elle est responsable de ses maux, qu'elle se sert au lieu de servir. Et par ailleurs, n'exprime pas des convictions et donc considère que ce qu'on dit est faux ou serait de la langue de bois à chaque instant, les décourage d'aller voter pour leurs représentants. Et il y a une crise aussi de la démocratie représentative. Et ben, je crois que ça fait partie des fractures qu'il faut réparer, mais ce n'est pas en supprimant des scrutins, en supprimant le fait que les gens n'aillent pas voter, qu'on arrive à réparer.
Est-ce que élargir la procuration, la facilité, peut permettre justement de lutter contre cette abstention record qui s'annonce ?
Voir le vote par correspondance.
Alors, Christophe Castaner a évoqué ce matin la facilité pour les procurations. Bien sûr, tout ce qui peut être fait est important. Le vote par correspondance a été supprimé en 1975. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des doutes sur la manipulation des scrutins. Il y a pire qu'un scrutin où il y a beaucoup d'abstention. C'est un scrutin où il y a des soupçons de vérité, de manipulation. Donc, ça relève de la loi. Moi, je ne suis pas là pour dire ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais il me semble que le ministre de l'Intérieur a clairement évoqué que nous allons avoir non seulement les conditions sanitaires pour pouvoir voter très correctement pour ceux où il y a un second tour aux élections municipales, et par ailleurs des facilités pour voter par procuration.
Gérald Darmanin, vous dites dans le journal du dimanche toujours, si je suis réélu au premier tour à Tourcoing, c'est sans doute que les habitants m'apprécient. Mais j'y vois aussi une marque de soutien à la politique du gouvernement auquel j'appartiens et que je représente. Édouard Philippe, lui, n'a pas été élu au premier tour au Havre. Est-ce que, au contraire, ça peut être une marque de défiance vis-à-vis du Premier ministre qui s'est manifestée ? Mais et est-ce que vous craignez qu'elle se manifeste à nouveau ?
Vous plaisantez. Le Havre, c'est une grande ville, encore plus grande que Tourcoing, très populaire également, et il est Premier ministre. Et il a eu ce courage supplémentaire, peut-être que je n'ai pas eu, de dire à ses concitoyens que s'il est tête de liste parce qu'il aime sa ville, l'appel de la France, puisqu'il est le Premier ministre, l'empêchait de pouvoir choisir sa ville plutôt que d'être Premier ministre du pays, ce qui est tout à fait logique et ce qui est très courageux de sa part. Le Premier ministre, il aurait pu rester tranquillement assis à Matignon sans aller se confronter aux
et
électeurs.
Et s'il est battu, il peut rester Premier ministre ?
Mais le Premier ministre ne sera pas battu. Je connais Édouard Philippe depuis longtemps. Mm-hmm. Il m'a eu la gentillesse de m'inviter plusieurs fois au Havre. Je crois que j'ai de la jalousie à le voir aussi populaire. J'aimerais être aussi populaire à Tourcoing qu'il ne l'est dans sa ville.
Pendant la campagne, puisque lui, il a un deuxième.
Je crois que le Premier ministre n'a pas besoin qu'un autre ministre vienne le soutenir. Je crois que les Havrais se rendent bien compte que c'est une chance d'avoir Édouard Philippe comme Premier ministre. Il aurait pu choisir Paris, le Premier ministre. Il en avait la carrure, il en avait la possibilité de faire une grande carrière. Il a choisi sa ville en regardant la mer. Moi, Édouard Philippe, vous savez, faut savoir qui il est lorsqu'il vous dit qu'il aime la mer, qu'il aime regarder le port du Havre et qu'il est amoureux de sa commune.
Au point d'y retourner bientôt.
Mais je crois qu'il y habite toujours. Le Premier ministre n'a jamais quitté le Havre. Et en tout cas, je peux vous dire qu'en tant que ministre des les comptes publics, en tant que ministre des Douanes, puisque nous avons un grand port au Havre, tous les jours, il s'intéresse au devenir de sa commune.
Et d'ailleurs, c'est vrai, vous dites qu'il est plus, il est populaire. Il est plus populaire que le président de la République, Édouard Philippe. Comment vous l'expliquez ?
Je ne crois pas qu'il soit plus populaire que le président de la République.
Gérald Darmanin.
Le président de la République, c'est vrai dans tout, dans la Ve République, il est élu au suffrage universel par tous les Français. On y met à la fois beaucoup d'espoir et parfois beaucoup de détestation quand on élit un président de la République. Et normal qu'il prenne plus le vent de la contestation parce que c'est lui le chef. C'est lui qui a été désigné. Mm-hmm. Malgré les grandes qualités d'Édouard Philippe, malgré les qualités des ministres, nous n'avons pas été désignés par les électeurs, pas par les Français. C'est le président de la République le chef, c'est normal que le chef prenne le vent quand il est positif et quand les choses sont négatives parce que les gens ont peur de leur santé, ont peur de perdre leur emploi. Et il est normal que la popularité du chef de l'État ne dépasse pas un score que pourrait qualifier de soviétique. Mais ce n'est pas grave, ça. Il vaut mieux être impopulaire et responsable et à la fin être élu, ce que je souhaite pour le président.
Donc ce n'est pas gênant, cette différence de popularité entre les deux aujourd'hui. Bon, ça n'est pas un signe d'affaiblissement du président de la République.
Vous savez, ce qui compte surtout, c'est quand les urnes parlent.
Alors justement. Non,
les sondages, c'est sympathique.
Vous nous faites la transition, Gérald Darmanin. Voyez, question de Marion
les Mourlier. Électeurs, c'est mieux.
Est-ce que vous craignez un vote sanction le 28 juin à l'égard du gouvernement pour sanctionner cette gestion de la crise ou pas? LREM n'a pas fait des scores éblouissants au premier tour.
Vous êtes extraordinaire.
Merci.
Un match de football, c'est demi-temps. Si vous dites au mi-temps, bah, franchement, vous perdez 2-1, là, vous allez perdre le match. Bah, je vous dirais, il y a le deuxième mi-temps. Il y a un second tour. Il y a plein de candidats formidables qui peuvent gagner des grandes villes en France pour la majorité présidentielle.
Lesquelles, par
Violette Spiebout, à Lille, a fait un très bon score. Sans doute se trouvera-t-elle dans une triangulaire avec Madame Aubry, qui n'a pas dépassé 30% des voix. Violette Spiebout peut être maire de Lille. Agnès Buzyn est une excellente candidate pour Paris.
Vous pensez encore qu'elle peut gagner l'élection?
Ça a été ma voisine au Conseil des ministres pendant 2 ans. Je l'ai vue travailler puisque nous partagions les comptes sociaux ensemble. C'est une femme sérieuse. Les Parisiens auraient raison de voter pour elle comme maire.
Il y a des
têtes de liste dans les arrondissements pour En Marche qui ont fait des scores très importants. C'est le cas de Delphine Burkly, c'est le cas d'Anna Seba dans le 16e arrondissement. Paris est gagnable, mais simplement, effectivement, il faut qu'on soutienne notre candidate. Mmh. C'est une grande femme qui a quitté son ministère pour pouvoir aller à portée d'engueulade des Parisiens.
Qui a toujours l'envie de ce second tour.
Pour Madame Buzyn.
Bah
écoutez, j'ai échangé pas plus tard qu'avec elle la semaine dernière, puisqu'on a prévu de se voir. Mm-hmm. Elle a envie d'être maire de Paris, et je vais tout faire avec d'autres, j'espère, pour qu'elle puisse, si on peut avoir influencé un peu le scrutin, être maire de Paris.
Mais attendez, c'est pas gênant, Gérald Darmanin, que Agnès Buzyn ait critiqué, dénoncé une mascarade dans l'organisation du premier tour des élections, parce qu'il y allait de la santé des Français, que c'était imprudent.
Mais Madame Buzyn s'est présentée au suffrage du premier tour. Elle a porté un projet pour Paris. Elle a eu le courage. D'ailleurs, je voudrais avoir une pensée aussi pour Benjamin Griveaux. Elle a eu le courage de remplacer Benjamin Griveaux dans des circonstances difficiles. Les ministres, ils ne doivent pas aller sur les plateaux de télévision pour taper pour celle qui est une des plus courageuses d'entre nous, c'est-à-dire aller dans la bataille principale, des municipales, qui est Paris. Donc moi, je souhaite qu'elle gagne.
Et vous irez la soutenir sur le terrain.
Je l'ai déjà fait. Mmh. Mais si elle souhaite que je le fasse, je le ferai bien volontiers.
Adrien Gindre.
Question sur les masques, puisqu'on parlait à l'instant d'Agnès Buzyn. C'est l'un des sujets qui, quand elle était ministre, et a fortiori depuis qu'elle a quitté le gouvernement, est devenu essentiel dans cette crise. La question de savoir si oui ou non, nous étions correctement préparés. Le président de la République, il y a quelques jours, dans une interview, a indiqué qu'il n'y avait pas eu de pénurie de masques. Ça a été très commenté, ça a été très critiqué. Est-ce que vous avez le sentiment, en l'espèce, que le gouvernement est irréprochable? La semaine dernière, à cette même place, Marine Le Pen expliquait que le gouvernement avait menti.
Oui, ben le jour où Mme Le Pen dit que le gouvernement n'a pas menti et a fait des choses formidables, je m'inquiéterais. Ça veut dire qu'elle est au pouvoir. Donc je m'enorgueillis qu'elle dise.
Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait aussi écouter les critiques.
Oui, mais enfin, Mme Le Pen, on peut s'arrêter à un certain nombre de critiques. Elle a plus montré son déshonneur. Et encore une fois, le fait qu'elle n'était pas digne, on l'a bien vu entre les deux tours de la présidentielle, d'être présidente de la République. Et donc j'aimerais commenter autre chose que les élucubrations de Mme Le Pen. Cependant, dans une crise sanitaire sans précédent, tous les pays ont les mêmes problèmes que la France. Alors, soit tous les pays ont failli, soit on peut considérer quelques instants que personne n'avait prévu une épidémie de cette ampleur et que par ailleurs, les Français, les collectivités locales, les entreprises, les administrations, les politiques n'étaient pas tous préparés, sans doute qu'ils
n'étaient avec cette épidémie. Il y a une pénurie de masques, on l'a géré.
Moi, j'ai participé à des réunions autour du président de la République, lors des conseils des ministres par exemple, où le conseil scientifique lui-même, je ne vais pas vous relire ses avis, disait que le port du masque était parfois pas à encourager, sauf pour les personnes qui se sentaient malades.
On parle de conseil scientifique pour les soignants.
Les médecins ont eux-mêmes parfois changé d'avis. Voilà. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on va se nourrir de cette crise pour préparer, bien
mais
sûr,
c'est si
les prochaines.
Mais compliqué à dire qu'il y a eu des erreurs ou qu'il y a eu des manques.
Vous disiez tout à l'heure, est-ce que le gouvernement a bien fait ou a mal fait? Il y a des enquêtes parlementaires qui s'ouvrent. C'est normal que le Parlement contrôle l'action du gouvernement, c'est ça en démocratie.
Il y a 70 plaintes déjà, même un peu plus, contre des membres du gouvernement ou anciens membres.
C'est la liberté de chacun déposer des plaintes s'il le souhaite. Il faut peut-être éviter la judiciarisation totale de la vie politique, parce que sinon, on oublie la responsabilité politique qu'est celle d'un gouvernement face au Parlement. C'est au Parlement et à l'opposition, ce qu'elle fait d'ailleurs au Sénat comme à l'Assemblée, de pour regarder ce qu'a fait le gouvernement. Et si jamais le gouvernement n'a pas été à la hauteur, de le sanctionner. Alors, c'est ça, la responsabilité politique.
Si ce n'est pas justement devant la justice, eh bien, c'est dans les urnes que peut s'exprimer...
Bah d'abord, c'est au Parlement.
Eh bien, ça peut être dans les urnes. Est-ce que Marine Le Pen, par exemple, dit, vu les circonstances, il pourrait y avoir une dissolution de l'Assemblée, d'autant que votre majorité est un peu plus vacillante. Pourquoi ne pas retourner devant les électeurs avec une dissolution de l'Assemblée nationale?
Donc vous arrivez dans la même émission à me dire c'est dangereux d'aller voter pour le deuxième tour d'élection municipale sans campagne pour le 28 juin. Il faut faire une dissolution et une campagne
législative. Si vous pouvez faire l'un, vous pouvez faire l'autre.
Il y a une campagne législative quand même. Là, la campagne municipale, elle est faite. On sait tous qu'entre le premier et le second tour des municipales, il y a 5 jours.
C'est juste
une
question de modalité ou...
Deuxièmement, c'est pas à moi de décider de la dissolution. Troisièmement, la majorité est solide, elle est claire, elle sait où elle veut aller. Quatrièmement, je dis à M. Sportouche, si Mme Le Pen avait été au pouvoir, est-ce que les Français pensent vraiment que l'épidémie aurait été mieux gérée? C'est une question qu'il faut se poser. Elle a dit tout et son contraire, c'est une habitude, pendant cette crise sanitaire. Donc voilà. Laissons les gens qui sont habitués aux extrémismes et aux contestations parce qu'ils n'ont jamais eu de responsabilité continuer à crier avec le loup. Nous, on a géré la crise. Regardez les chiffres. Les chiffres économiques, par exemple. Tout le monde s'accorde à dire que le gouvernement de la République a été à la hauteur.
On va revenir en détail sur l'économie à la seconde partie. Mais juste, je rebondis sur ce que vous venez de dire. On a compris que la dissolution, pour vous, c'est énorme. Est-ce qu'il ne faudra pas...
Mais c'est pas à moi de décider.
Après cette crise, on a compris, c'est le président, mais un moment, un marqueur politique pour se dire qu'on est dans une nouvelle étape, si ce n'est pas une dissolution, un référendum, un moment fondateur, puisqu'on a bien compris que vous appeliez de vos voeux, que le président appelait de ses voeux, un nouveau temps. Comment est-ce qu'on marquera l'entrée dans ce nouveau temps et comment est-ce qu'on y associera les Français?
D'abord, le président de la République, il décide des choix que lui offre la Constitution. Et moi, je ne me substitue pas au choix du président de la République. Après, je sens que politiquement, ça vous intéresse de commenter un référendum, un remaniement. Mais ce n'est pas ça l'important.
Ça nous intéresse de comprendre où va la France.
Mais l'important, c'est le projet. L'important, ce ne sont pas tellement les hommes. Ça fait plaisir, bien sûr, aux uns et aux autres. On préfère y être que pas y être. Évidemment, je vous mentirais du contraire quand on aime la politique. L'important, ce n'est pas le geste. Ça fait la une de vos journaux. Un référendum, une dissolution, un remaniement. L'important, c'est le projet pour le pays. C'est ça qui est le plus important. Moi, j'ai essayé modestement d'y contribuer en mettant en avant la question de la participation, mais il y a plein d'autres
idées. Alors, on va y revenir parce que c'est intéressant. Sur le fond, c'est d'abord l'heure de la question en plus.
Le grand jury, la question en plus.
Monsieur le ministre, bonjour. Patrick Liebus, le président de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment. Pour éviter la propagation de la Covid-19 sur les chantiers du bâtiment, nous devons mettre en place des équipements supplémentaires, ce qui nous amène à un surcoût très important. Port de masque ou autre équipement. Monsieur le ministre, ne serait-il pas possible, pendant la transition, pour éviter du surcoût pour les entreprises, de mettre en place un système soit de défiscalisation, soit un système de TVA à taux réduite? Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre.
Très rapidement, on arrive à la pause. Est-ce que l'une des deux options est possible, Gérald Darmanin?
On peut toujours discuter, notamment avec le président Liebus, parce que je sais que les entrepreneurs de France, notamment dans le bâtiment, sont en grande difficulté. Du fait du calendrier électoral, il n'y a pas de maire qui signe des permis de construire, et du fait évidemment de la crise du Covid. On a fait beaucoup de choses. Des étalements de charges, 36 mois d'étalement de charges, je le dis au président Liebus. Toutes les entreprises qui ne seront pas payées leurs charges et qui ne seront pas exonérées pourront pendant 36 mois étaler leurs charges patronales. On a reporté des impôts, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires. Et je sais que les surcoûts qu'il évoque sont vrais. Je suis maire et je vois que c'est vrai dans le BTP, entre 5 et 20% selon les opérations. Et je sais que le ministre de l'économie va travailler avec le président Liebus pour voir comment on prend en charge une partie de ces surcoûts.
Étalement sur 36 mois, voire annulation, vous pouvez nous l'annoncer
3
aujourd'hui.
3 milliards d'euros d'annulation de charges décidées par le président de la République, dans le secteur du tourisme, des arts et spectacles, de la restauration, de l'hôtellerie, de la culture, du sport. Et pour tous ceux qui ont vu reporter leurs charges, l'étalement sur 36 mois.
On se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ce grand jury. On parlera notamment du plan hôpital à venir. A tout de suite.
Bonjour, ici Philippe Corbet à New York pour RTL. Chaque semaine, je vous envoie une lettre d'Amérique sur la route à travers les États-Unis, de la Floride à l'Alaska, du Texas au Minnesota. Je vous raconte l'Amérique telle que je la vois et telle que je la vis.
Pour recevoir gratuitement la lettre d'Amérique de Philippe Corbet, il vous suffit d'aller sur rtl.fr. Une lettre d'Amérique, un podcast RTL Originals.
RTL, il est midi et demi. Un point sur l'actualité avec vous, Thomas Dulin. Bonjour Thomas.
Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Le président et le premier ministre m'ont autorisé à être ministre et maire de Tourcoing pour un temps. Déclaration de Gérald Darmanin il y a quelques minutes sur notre antenne dans le grand jury RTL, Le Figaro, LCI. Il s'explique après son élection hier à la tête de la mairie de cette ville du Nord, mandat qu'il cumulera avec celui de ministre. Une règle tacite l'interdisait. Les permanences à Tourcoing m'apportent peut-être plus que celles de Bercy, a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes public. Concernant le second tour, Gérald Darmanin se veut confiant. Le Premier ministre ne sera pas battu au Havre. La cote de popularité d'Edouard Philippe en hausse de 2 points sur un mois, d'après un sondage IFOP pour le JDD, réalisé après le début du confinement. La cote du président, elle, est en baisse de 3 points. Un groupe scolaire de Villeneuve-d'Ascq dans le Nord fermé jusqu'à nouvel ordre. Un agent municipal chargé de l'entretien des locaux a été testé positif au coronavirus. Il n'a pas été en contact avec des élèves de ces écoles maternelles et primaires, mais potentiellement avec les enseignants. Les locaux vont être désinfectés. Les grandes entreprises doivent passer de la parole aux actes sur les enjeux écologiques. Voilà en substance le message adressé par Elisabeth Borne à 90 grands patrons. Dans un courrier, la ministre de la Transition écologique les enjoint par exemple à faire don des invendus aux associations ou mettre à disposition un repas végétarien par semaine dans les restaurants d'entreprise. Des milliers de Hongkongais dans la rue, malgré l'interdiction, ils manifestent pour protester contre un projet de loi sécuritaire du gouvernement chinois. La police anti-émeute a tenté de disperser la foule à coups de grenades lacrymogènes. RTL, il est midi 31, la suite du grand jury. Tout de suite, vous retrouvez Benjamin Sportouche.
La vie est un roman, le nouveau roman de Guillaume Musso, mardi prochain chez votre libraire.
Mercedes-Benz.
Pour repartir du bon pied, il faut parfois un bon coup de pouce. Alors pour vous aider à bien redémarrer, Mercedes-Benz vous offre 6 mois de loyer pour tout financement au crédit bail 48 mois d'un véhicule utilitaire neuf, quel que soit le modèle ou ses équipements.
Mercedes-Benz. Offre de Mercedes-Benz financement réservé aux professionnels sous réserve d'acceptation du dossier. 6 loyers offerts hors premier loyer majoré valable pour toute commande jusqu'au 30 juin 2020. Conditions sur mercedes-benz.fr/vans.
Chaque dimanche sur Paris Première, retrouvez les têtes brûlées avec l'inoubliable Robert Conrad. La série culte qui raconte l'histoire vraie de Papy Boynton à la tête d'une escadrille de pilotes de chasse qui faisait régner la terreur dans le ciel du Pacifique Sud.
Montrez-moi un héros et je vous démontrerai que c'est un malheureux.
Les têtes brûlées en version remasterisée, ce soir à 20h50 sur Paris Première.
Cadeau exceptionnel RTL.
Jouez avec RTL et gagnez une voiture. Envoyez dès maintenant voiture au 74 900, 75 centimes par SMS ou appelez le 3210, 50 centimes la minute. Et repartez au volant de la nouvelle citadine Mitsubishi Space Star. Le gagnant sera tiré au sort par Laurent Ruquier.
Demain, entre 15h30 et 18h. Alors pour gagner votre nouvelle voiture, jouez avec RTL.
Jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche.
Avec à mes côtés Marion Mourgue du Figaro et Adrien Gindre de LCI qui vous pose, Gérald Darmanin, la première question de cette seconde partie.
Vous nous parliez il y a quelques instants d'étalement, d'annulation de charges. Il y a un secteur en particulier qui apparaît en difficulté en ce moment, c'est celui des bars, de la restauration. On a appris que Jean-Marie Bigard s'en était ému, que le président de la République d'ailleurs l'avait joint et qu'ils avaient visiblement convenu ensemble que jusqu'ici, le gouvernement s'y était mal pris, qu'il fallait peut-être changer de méthode, voire changer de calendrier. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les bars et le restaurant? Est-ce que vous estimez qu'à partir du 2 juin, il faut les rouvrir partout?
Vous savez, comme tout le monde, je souhaiterais pouvoir aller boire un verre avec des amis ou aller au restaurant parce que d'abord, c'est notre culture, c'est notre façon de vivre. Et on sait tous qu'en France, c'est plus qu'un secteur économique, c'est une identité. On aimerait tous pouvoir retrouver la vie d'avant. Simplement, on a un virus dont on n'a ni le traitement, ni le vaccin. J'ai assisté à plusieurs réunions avec le président de la République et les restaurateurs, les hôteliers. Nous faisons le maximum pour pouvoir réouvrir dans des conditions, Monsieur Bazin d'ailleurs a une mission et il travaille avec les professionnels, dans des conditions sanitaires acceptables et en même temps pour que le modèle économique soit viable. Ce qu'a dit le Premier ministre, c'est que nous allons avoir des clauses de revoyure, notamment cette semaine, pour savoir si nous pouvons ouvrir un certain nombre d'endroits, notamment les bars et les restaurants. Prenons le temps de cette discussion. Vous savez, les restaurateurs, ils ont eu à la fois l'occasion d'en discuter longuement avec les représentants du gouvernement. Ils ont des annulations de charges, ils ont des reports d'impôts, ils ont des prises en charge, pas tout le temps, bien sûr, mais de leur loyer. Je sais qu'ils souffrent beaucoup.
Mais Jean-Marc Bigard a l'air d'estimer que ça ne suffit pas et qu'il faut changer de méthode.
J'entends bien et je comprends que chacun ait envie de retrouver sa vie d'avant. Moi, je l'entends mille fois et vous inquiétez pas, les sollicitations sont évidemment nombreuses.
Le président prend la peine de le rappeler.
Moi, je n'ai pas participé à la conversation entre M. Bigard et M. le président de la République. Mais le fait que le président de la République ait mis autant de son poids personnel pour discuter avec les professionnels montre à quel point...
Mais est-ce qu'il faut accélérer quand même ce déconfinement ? Manuel Valls, qui était au micro de RTL vendredi matin, le souhaitait en disant bien, l'activité économique souffre trop, il faut aller plus vite.
Évidemment, quand vous êtes en responsabilité politique, vous devez juger entre plusieurs impératifs. Il y a l'impératif sanitaire, dont on a dit depuis le début qu'il était le plus important. C'est d'ailleurs une marque de civilisation exceptionnelle. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité... Les hommes et les femmes d'État ont arrêté l'économie sciemment, avec des conséquences bien sûr désastreuses et compliquées pour le budget, pour les gens, bien évidemment. Mais on pense que la vie est plus importante que les conséquences économiques. Il faut évidemment éviter que les conséquences économiques soient trop importantes et qu'ils prennent le pas, bien sûr, sur les conditions de santé et de vie des gens. C'est ce qu'a fait, je crois, le Premier ministre et le Président de la République en organisant des confinements parmi d'ailleurs les pays les plus tôt en Europe. Mais nous devons continuer à regarder les aspects sanitaires comme les aspects les plus importants, ne pas subir les questions économiques, même si vous avez vu que le gouvernement a cassé sa tirelire, pardon de dire comme ça, il n'en avait déjà pas de tirelire. Il n'y avait déjà pas de tirelire, on l'a quand même cassé pour soutenir, pour nationaliser les salaires, parce que qu'est-ce qu'on a fait avec 12 millions de personnes qui ont eu leur salaire payé ? C'est l'État qui les a payés. Pour soutenir les indépendants, pour soutenir les entreprises, pour intervenir dans Air France. Bref, le gouvernement a fait son travail.
On va revenir à la tirelire.
Juste une question sur la méthode, comme Gérald Darmanin, parce que sur les bars et les restaurants, le président de la République a eu un contact direct avec Jean-Marie Bigard. Sur le Puy du Fou, c'est Philippe de Villiers qui annonce sur Twitter le résultat de ses discussions avec le président de la République. Vous disiez tout à l'heure qu'il fallait être connecté à la population, avoir des relais. Est-ce que les relais de l'exécutif, ce sont Jean-Marie Bigard, Philippe de Villiers. Est-ce que ça vous paraît la méthode que vous souhaitez ?
Je ne commande pas les relations que M. le Président de la République a avec les Français. Et franchement,
ses interlocuteurs le commandent.
En l'occurrence, le Président de la République, chacun fait ce qu'il souhaite. Moi, je ne parle pas de mes conversations avec le Président de la République. Et en l'occurrence, le Président de la République, j'en suis témoin, est déjà intervenu plusieurs fois auprès de moi pour un boulanger ici à Vierzon ou pour un coiffeur ici à Vesoul. Comme il est peut-être moins connu que M. Bigard, il n'a pas la chance d'être sur l'antenne de RTL. Mais la vérité, c'est que le président de la République est très connecté avec les Français. Chacun sait que la façon de travailler du président de la République, c'est d'écouter le terrain.
Marion Morgue.
Vous disiez que vous aviez cassé la tirelire, puisque justement, il fallait aider l'économie française. La dette française est à plus de 100%, presque 115%. Vous attendez qu'elle atteigne quel niveau à la fin de l'année ?
C'est très difficile à dire. Ce sera sans doute un peu plus que les 115%. Vous savez que la dette, c'est deux choses. C'est à la fois les dépenses que l'on fait, et on en fait beaucoup, et les recettes qu'on n'a pas. Parce que dans cette crise, il y a une sorte d'effet ciseau. Vous dépensez plus et vous avez moins de recettes fiscales puisqu'il y a moins d'activité. Donc ce sera plus que les 115% très certainement.
Combien ? Est-ce que vous avez une idée ? Est-ce qu'on va monter à 120, 130 ? Est-ce que c'est cela
qui sont des choses trop importantes pour pouvoir faire des commentaires avec le doigt mouillé. Ce qui est certain, c'est que nous avons choisi l'endettement, qui est préoccupant, contre la faillite qui aurait été désastreuse.
Et comment on rembourse alors cette dette qui est justement colossale ?
Il y a trois façons de faire. Soit on augmente les impôts, ce n'est pas le choix du gouvernement. Soit on réduit drastiquement les dépenses. On voit bien que s'il faut faire attention à l'argent public, réduire drastiquement les dépenses au moment où il faut faire un plan hôpital et revaloriser les infirmiers et les infirmières, au moment où il faut soutenir l'économie, ce ne serait pas raisonnable.
Il n'y aura aucune hausse d'impôts, de taxes, de contributions,
quelle qu'elle soit. Le ministre des Comptes Publics que je suis ne souhaite pas, je crois que le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a longuement évoqué également, que nous puissions augmenter les impôts, parce que si nous augmentions les impôts, on découragerait les entreprises, les salariés à consommer, à investir.
Mais la CRTS, ça a déjà augmenté. Elle est prolongée, en tout cas.
Les impôts n'ont pas augmenté, ils ont même baissé cette année.
La contribution
pour la dette sociale est prolongée.
2033.
On peut parler de la dette sociale si vous le souhaitez, mais je ne suis pas sûr que ça réponde tout à fait à la question que vous m'avez posée. Donc, si vous me permettez de terminer, comment on rembourse cette dette ? Soit on augmente les impôts, soit on baisse fortement les dépenses, soit on choisit la troisième voie qu'a choisi le président de la République depuis 3 ans. Bah, il fait confiance aux acteurs économiques. Et la croissance crée la richesse qui permet de rembourser cette dette. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 ans ? C'est parce qu'on a baissé les impôts. C'est parce qu'on a cru aux entreprises que nous avons pu améliorer le pouvoir d'achat des Français, qu'on puisse consommer, qu'on puisse payer de cotisations, qu'on puisse payer de TVA. Et en baissant les impôts, en fait, nous avons eu plus de recettes et donc on a pu rembourser notre dette et notre déficit qui baissait continuellement depuis 3 ans. Donc nous faisons le pari de l'action économique. Ça ne doit pas être une économie administrée qui doit demain répondre à la crise des Français.
Je reviens juste quand même sur le risque de l'endettement de la France. On est à 115%. Est-ce qu'il y a un plafond maximum possible pour la France ? C'est-à-dire, est-ce qu'au-delà de 130, 150%, on a des voisins européens qui sont endettés à ce niveau-là ? Est-ce que c'est possible pour la France ? N'y a-t-il pas un risque de faillite de l'État ? Je citais en début d'émission ce qu'avait dit François Fillon lui-même en 2007.
Alors l'État français est solide. D'abord parce qu'il a des institutions léguées par le général de Gaulle qui montrent qu'il n'y a pas d'instabilité politique. Les marchés financiers regardent cela. Deuxièmement parce qu'ils ont vu depuis 3 ans, la Commission européenne, la Banque centrale européenne, l'Allemagne, les marchés financiers ont vu que nous étions un gouvernement sérieux, qui faisait des économies et des réformes, qui parfois nous ont rendus impopulaires, mais nécessaires. Et je veux dire aux Français qu'en temps de paix, nous avons fait des économies, et grâce à ces économies et ces efforts en temps de paix, nous pouvons emprunter aujourd'hui, en temps de guerre, sur les marchés financiers encore à taux négatif.
Sans problème, sans difficulté, et ad vitam, j'allais dire.
La question n'est pas de le faire ad vitam, on va sortir de cette crise, on va renouer avec la croissance. Et d'ailleurs, c'est parce qu'on a supprimé l'ISF, c'est parce qu'on a mis en place le PFU, c'est parce qu'on a accepté l'idée qu'on n'était pas un gouvernement qui augmentait sans cesse ses impôts, que je suis sûr que demain, quand la croissance va revenir, nous reprendrions plus vite que la plupart des pays voisins.
Et le rétablissement de l'ISF, est-ce que c'est une option quand même pour enflouer un peu les caisses de l'État
non,
ou pas ?
Non, mais l'idéologie fiscale n'a jamais fait une bonne politique. La fiscalité,
c'est 3 milliards.
La fiscalité, c'est pas fait pour l'idéologie. La fiscalité, c'est fait pour aider le pays à mieux fonctionner et à payer ses services publics. Vous parliez de Tourcoing tout à l'heure. Moi, j'ai vu ce que c'était l'ISF à Tourcoing. C'était des riches qui étaient tous partis en Belgique, et les pauvres sont restés à Tourcoing, les chômeurs sont restés à Tourcoing, et la richesse était en flamme.
Ils sont revenus ?
Mais le taux de chômage à Tourcoing a baissé.
Ils sont revenus les riches qui sont partis en Belgique ?
Je crois qu'une grande partie, effectivement, de l'économie, aujourd'hui, bénéficie de l'impôt sur le capital qui a été supprimé. Peut-être pas entièrement, le Parlement est en train de l'évaluer. Il y a déjà un premier rapport parlementaire qui l'a montré. L'idéologie fiscale, ça ne marche pas. Alors il y a deux choses qu'il faut éviter dans ce moment. L'idéologie fiscale ou l'augmentation généralisée des salaires parce qu'on trouverait que c'est une bonne idée. C'est a priori très sympathique de dire qu'il faut que les riches payent et qu'il faut augmenter les salaires. Simplement, alors, ça tue l'emploi. Notre premier angle de travail, c'est l'émancipation des Français par le travail. Et tout ce qui tue l'emploi doit être rejeté. Il faut augmenter le pouvoir d'achat des Français en baissant les impôts. Mais en ayant des idées comme celle de la participation, sans tuer l'emploi.
Adrien Gindre.
Laurent Berger vous demande pour le coup un Grenelle, d'y réfléchir. Pourquoi à la rentrée ne pas organiser par exemple un grand Grenelle des salaires ? Pourquoi ne pas revaloriser cela ? Parce qu'on l'a vu toutes ces dernières semaines, il y a des appels à une augmentation précisément de la rémunération des Français.
Mais quelle est la question ? Si la question c'est qu'il faut améliorer la condition de vie des ouvriers et des salariés de France, la réponse est oui. Est-ce que ça passe par l'augmentation de salaire généralisé ? Je pense que la réponse est non. On est là pour en discuter.
Alors, ça passe par quoi ?
Qu'a fait l'État ? D'abord, l'État il a supprimé des impôts, des cotisations, de la taxe d'habitation, qui a redonné du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Il a fait la promesse du président de la République, au lendemain des Gilets jaunes, de 100 euros d'augmentation sur le SMIC. Non pas payé par les entreprises, mais payé par l'État. La prime d'activité est passée de 3 milliards à 9 milliards d'euros. C'est une avancée sociale pour les gens qui travaillent sans précédent. Désormais, les entreprises doivent prendre leur part. Moi, je propose la participation, la vieille idée du général de Gaulle, l'association capital-travail,
mais qui l'intéressement jusqu'ici.
Et la participation. Parce que personne n'a jamais vraiment fait. Oui. Bruno Le Maire l'a porté dans la loi Pacte, et nous pouvons le généraliser. Qu'est-ce que je propose ? C'est quoi l'intéressement ? Vous êtes intéressé à la marge de votre entreprise, et vous êtes payé en plus de votre salaire au pourcentage de la réussite de votre entreprise. C'est quoi la participation ? Vous êtes aussi actionnaire de votre entreprise. Ça a d'énormes avantages. Ça réconcilie le capital et le travail. On voit bien qu'il y a une lutte des classes qui commence à renaître, soit dans les faits, soit poussé par un certain nombre de personnes qui veulent tuer notre pays. On voit bien en même temps qu'il vaut mieux répartir les richesses et qu'en effet, le routier, la caissière doit avoir son dû. Le discours du président de la République était fort pendant la crise. L'utilité sociale de la caissière, ça doit se traduire par une augmentation de pouvoir d'achat.
Mais ce que Bruno Le Maire n'a pas réussi à faire avec la participation, vous allez réussir, vous le faire. Et je ne sais pas à quel poste, mais vous allez réussir.
Je le ferai à mon niveau avec le ministre de l'Économie et des Finances, avec qui nous travaillons très bien. Et il l'a fait, il a supprimé le forfait social, c'est-à-dire la taxation du patronat sur une part pour les entreprises de moins de 250 salariés, par exemple. Mais moi, je propose d'aller encore plus loin.
C'est très aléatoire comme source de revenus, Gérald Darmanin.
Moi, je propose de généraliser.
C'est beaucoup moins stable qu'un salaire.
Non, mais il ne se substitue pas au salaire. Il se rajoute au salaire. J'ai jamais dit qu'il fallait baisser le salaire à proportion de l'intéressement.
Ça fonctionne pour toutes les entreprises, pas uniquement les grandes.
Moi, je suis favorable pour que ça fonctionne pour toutes les entreprises, qu'on le rende, c'est une proposition obligatoire, c'est pas un projet du gouvernement, c'est ma proposition. En contrepartie, que nous supprimions la fiscalité pour les entreprises de le mettre en place, nous pourrions même imaginer de retirer tout ou partie de l'impôt sur le revenu que payent les ouvriers et les salariés du fait de cette participation. Et demain, s'il y a un accroissement de capital, de rendre possible que les salariés soient les premiers propriétaires de l'entreprise.
Vous comprenez bien, ça serait une obligation, Gérald Darmanin, pour toutes les entreprises.
C'est une proposition qui permet la discussion que M. Berger souhaitait.
Oui, mais est-ce que vous souhaitez que ce soit une obligation?
Je souhaite que l'on puisse généraliser la participation et l'intéressement. Vous savez, le général de Gaulle, il avait eu cette idée. Et puis, pour plein de raisons, les gaullistes de gauche, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, n'ont pas réussi à influencer le gaullisme qui était au pouvoir. Et puis, de très nombreuses fois, des personnalités issues de mon ex-famille politique ont essayé de le faire. Le président Sarkozy avait même repris cette belle règle du 3/3. Un tiers pour l'investissement d'entreprise, un tiers pour le capital, un tiers pour le travail. Et la crise financière l'a empêché de le faire. Nous avons aujourd'hui une voie magnifique, puisque nous pouvons le faire, pour réconcilier le travail et le capital,
et
de pouvoir rendre le capitalisme humain.
Comment vous faites pour un indépendant ou un fonctionnaire ? Est-ce que ça vaudra également pour eux?
En l'occurrence, le fonctionnaire ne peut pas être intéressé au bénéfice de la fonction publique, parce que par définition.
Moins bien traité qu'un.
Mais non, parce que vous aurez compris que nous avons augmenté une partie des agents, c'est notamment le cas de la revalorisation sans précédent du personnel hospitalier que nous allons mettre en place.
On va y venir dans un instant. Et sur les
pour les indépendants, mais aujourd'hui les indépendants peuvent le faire, simplement c'est compliqué. Donc il faut tout simplifier. Qu'est-ce qui se passe à l'indépendant? Il paye des impôts dessus. Il faut supprimer, alors pas pour les petits indépendants, je l'ai dit tout à l'heure, mais il a aujourd'hui une démarche compliquée avec ses salariés de la boucherie qui habitent à Tourcoing. Il faut que l'intéressement et la participation, ce soit social et ce soit pour tout le monde.
Mais
Malraux disait que le gaullisme, c'était le métro à 6 heures. Ben, il faut que le métro à 6 heures participe effectivement à la vie économique du pays, se sente utile dans le capitalisme.
Mais dans l'immédiat, il y a quand même un souci rapide pour les gens qui se retrouvent au chômage partiel et ils entendent dire par le gouvernement bien que ce chômage partiel pourrait être interrompu au mois de juin ou diminué. On ne comprend pas bien ce qui va se passer, Gérald Darmanin. Est-ce que vous allez supprimer le chômage partiel? Est-ce que vous allez le maintenir? Jusqu'à quand? Est-ce qu'il y aura un plafond de salaire? Dites-nous.
Non, mais c'est quoi le chômage partiel? C'est l'État qui a payé les salaires à la place des entreprises. C'est sans précédent. C'est sans précédent.
Oui, mais ça
évidemment,
doit continuer ou ça
à partir du moment où on déconfine et que les entreprises reprennent le chemin de la production, de la vente, des exportations, des importations, timidement, mais elles le reprennent, l'État n'a pas vocation à payer les salaires à la place d'entreprises qui font des chiffres d'affaires.
C'est ce qu'elle vous demande.
Elle
veut que ça continue le temps de la fin de la pandémie. Là, vous leur dites non.
Non, mais j'entends que c'est ce que demande le patronat, mais le gouvernement ne doit pas tout à fait répondre oui tout le temps à la CGT ou au patronat. Il y a peut-être une voie médiane.
Sauf que vous
nous
dites qu'il faut aider les petites entreprises.
Mais le problème principal, excusez-moi, ce n'est pas tout à fait ça. Le problème principal, c'est l'emploi. Nous avions réussi
Mais donc sur le chômage partiel, c'est fin de non-recevoir, qu'on soit très clair.
Non, mais qu'on accompagne des secteurs particulièrement touchés, comme la restauration, comme l'hôtellerie, parce qu'ils sont encore confinés, parce qu'il y a encore des difficultés, parce qu'il n'y a pas de touristes étrangers, c'est une réponse positive. On va pas faire de l'activité partielle encore pendant 6 mois dans la grande distribution. On voit bien que les supermarchés sont ouverts.
Mais
on
dans les bars et restaurants, c'est possible.
Le plan de relance annoncé mardi par le président de la République pour l'automobile, qui va être très important. Ben voilà, c'est une façon d'aider directement.
Combien,
au président de la République de le dire. Je ne vais pas faire les annonces du président de la République.
Pour tout dire.
Oui, bien sûr. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va aider ce secteur automobile qui est bien touché. Bruno Le Maire a fait des premières annonces, ce président va compléter.
Et ça veut dire que la question de l'emploi et du pouvoir d'achat doit être au cœur de cet acte 2 du quinquennat. C'est ça l'essentiel aujourd'hui?
Mais c'est déjà, au cœur de l'acte 1 du quinquennat. Le président de la République...
Mais on n'a toujours pas compris ce qui change dans l'acte 2, en fait.
Ben, vous l'avez pas... regardez dans votre feuille de salaire, vous avez vu qu'il y a eu un changement. On a supprimé vos cotisations. Vous avez eu une augmentation de votre feuille de salaire. On a permis les heures défiscalisées qu'avait honteusement supprimé M. Hollande. Ça, c'est direct dans votre salaire. On a supprimé la taxe d'habitation. Alors, il est vrai, pour l'instant, pour tous les gens qui gagnent moins de 2500 euros par mois. C'est vrai qu'on a d'abord fait les classes populaires et moyennes. Et ça, c'est une grande politique sociale. On a augmenté le pouvoir d'achat.
Et ça, ça va se poursuivre, la taxe d'habitation. Vous nous confirmez.
Ça va
jusqu'en 2022. D'accord. 2023.
C'est le président qui a le plus baissé les impôts. Des entreprises, d'une part, mais surtout des salariés, des ouvriers et des gens qui travaillent dans ce pays. Il faut continuer à le faire sans percuter, qui est la grande maladie française, la création d'emplois.
Vous allez encore baisser les impôts ?
Il faut continuer. Bah, quand on continue à supprimer la taxe d'habitation, on continue à supprimer des impôts.
Il n'y a pas d'autres baisses d'impôts prévues.
On a décidé, vous avez remarqué qu'on a décidé 5 milliards de baisses d'impôts sur le revenu en janvier. Il y a la crise. On aurait pu le faire avec l'impôt à la source, on aurait pu remonter très vite les taux d'imposition, nous ne l'avons pas fait. On a continué à évidemment dire aux
Français. Il y aura toujours une redevance audiovisuelle, par exemple.
Il y a toujours une redevance audiovisuelle, parce que le choix qui a été fait à l'époque, c'était de baisser l'impôt sur le revenu. Et je m'en félicite, parce que grâce à l'impôt à la source, je pense que ça se voit chaque mois.
Mais vous n'envisagez pas de la supprimer, la redevance audiovisuelle. C'était, vous avez évoqué à un moment donné, Gérald Darmanin, est-ce que c'est envisageable ou pas du tout d'ici la fin du quinquennat ?
On a décidé de baisser l'impôt sur le revenu, la taxe d'habitation. Ça me paraît déjà de grandes réformes de baisse de fiscalité.
Dites-nous, Gérald Darmanin, quand même, dans l'immédiat aussi, il y a beaucoup de propositions pour aider les Français. Alors, c'est un peu bien le concours l'épine chez vous. Il y a le secrétaire d'État au tourisme qui était sur notre antenne mercredi qui a annoncé la création d'un chèque vacances tourisme. Quel budget j'aimerais bien que vous nous le disiez. Et puis, la deuxième chose, c'est que Stanislas Guérini, lui, propose la création d'un chèque déconfinement destiné aux familles les plus précaires. Est-ce que vous dites banco pour ces deux propositions ? Et combien ?
Le chèque tourisme va être mis en place et aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères qui est en charge du tourisme le met en place et nous mettrons en place.
Régions, c'est les régions qui vont payer. Et Renaud Muselier d'ailleurs dit c'est bien sympathique de faire une annonce et c'est nous qui allons payer.
Faut pas caricaturer, l'État a été extrêmement présent. Vous savez, on travaille très bien avec les régions. Si je prends le fonds des indépendants, les régions ils ont donné 7% du montant total, merci à elles, mais on a quand même mis 7 milliards. Quand je dis nous, c'est vous, c'est l'État, c'est les Français, c'est l'argent public. Mais on travaille bien avec les régions. Et évidemment qu'il faut qu'on travaille avec toutes les collectivités locales, c'est pas un élu local qui va vous dire le contraire. Mais votre question, dites, il y a des propositions.
Oui.
Ce qui est intéressant dans les propositions de Stanislas Guérini, par exemple, c'est qu'en fait, il faut débloquer l'épargne des Français. Nous sommes dans une situation paradoxale, où les gens ont peur, ont eu peur de leur santé, demain ils auront peur de perdre leur emploi, ils savent pas de quoi demain sera fait. Une partie des Français souffrent beaucoup, et c'est le cas notamment des classes les plus populaires, mais il y en a aussi beaucoup qui ont épargné, quasiment 60 milliards d'euros sur les comptes épargne. Donc il faut qu'on accepte l'idée de redonner confiance aux entreprises pour qu'elles investissent et aux épargnants pour qu'ils consomment. Donc tout ce qui pourrait aller vers la consommation et accompagner la consommation, c'est très important. Donc si nous devons faire un plan de relance, notre objectif doit être de redonner confiance à l'ensemble de la société.
Ce sera de combien ce plan de relance ? Est-ce que c'est des centaines de milliards ? Est-ce que c'est 100 milliards ?
Nous y travaillons. Mais moi je voudrais remarquer par exemple qu'il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé la semaine dernière. Le président de la République, avec la chancelière allemande, alors qu'on disait que leur relation était mauvaise, alors qu'on disait que l'Allemagne ne voulait pas avancer, alors qu'on disait que l'Allemagne était un vieux pays qui ne voulait pas jouer le jeu de l'Europe, ont annoncé, parfois même contre d'autres pays européens, je le regrette.
Hier, vous avez quatre pays qui disent qu'ils n'en veulent pas.
La France et l'Allemagne, ce n'est pas n'importe quoi. La France et l'Allemagne qui se mettent d'accord, plus une Banque Centrale Européenne qui joue le jeu de la dette. Regardez l'incroyable force politique de l'Europe. L'euro nous a protégés des attaques monétaires. Qu'est-ce qu'on aurait ? On aurait dû peut-être dévaluer. Si nous avions gardé un franc, comme Mme Le Pen le souhaite tous les jours. Par ailleurs, nous avons dit que les règles budgétaires européennes étaient parfois idiotes. Nous les avons suspendues.
Ouais.
Et la France souhaite que nous continuions à retravailler les traités européens. C'était impossible il y a encore six mois. Nous avons une relance budgétaire et avec l'Allemagne, on est d'accord pour s'endetter ensemble. C'est extraordinaire.
Franchement,
tout le monde considère que c'est extraordinaire et on le doit au président de la République. Et par ailleurs, une Banque Centrale Européenne qui continue à racheter de la dette.
S'endetter, peut-être aussi sur l'hôpital. Marion Bourg.
Demain s'ouvre le Ségur de l'hôpital, cette réflexion pour réfléchir à une meilleure organisation. On a quand même tous constaté qu'il y avait un manque de moyens, que le personnel soignant est très mal rémunéré. Est-ce que vous, en tant que ministre du budget, vous avez des regrets d'avoir un peu serré la vis, de ne pas avoir entendu ces revendications pendant des mois ?
Bon, je ne peux pas considérer qu'on n'ait rien fait pour l'hôpital public. Je sais que c'est un discours qui est difficile à entendre, mais il faut le dire. La France est un des pays qui dépense le plus pour son système de santé. Et d'ailleurs, il a tenu. Il a tenu grâce aux infirmières, aux infirmiers, aux aides-soignantes, aux médecins, bien évidemment. Mais nous avons su être dans des situations différentes que dans d'autres pays, et notamment européens. Est-ce qu'il faut faire plus ? Il faut sans doute faire plus, bien sûr. Il y a une dette hospitalière, nous allons en partie l'effacer, c'était déjà annoncé avant la crise. Il y a aussi, il faut bien le dire, des soignants qui sont pas assez rémunérés par rapport à leurs voisins européens, c'est vrai, nous allons les revaloriser. Et puis il y a eu quand même des erreurs qui ont été faites, et ce n'est pas une question de Bercy. Madame Aubry a fait un tort considérable à l'hôpital public. Tout le monde sait, même M. Véran l'a dit dans son interview.
C'est de la faute de vos prédécesseurs.
Non, j'ai dit que chacun prend sa part. Mais enfin, chacun voit que les 35 heures à l'hôpital, ça a désorganisé l'hôpital
public. Agnès Buzyn, vous avez alerté sur tout ça ? Est-ce que dans les discussions budgétaires que vous avez eues avec elle ?
Mais Agnès Buzyn connaît très bien, comme Olivier Véran, le monde
hospitalier. Vous ne l'avez pas entendu alors ?
Nous avons augmenté les crédits
mais
de la santé.
Vous le reconnaissez aujourd'hui.
Peut-être insuffisamment, mais peut-être aussi que lorsque la goutte fait déborder le vase, la responsabilité n'est pas qu'à la goutte. elle est aussi beaucoup largement à l'eau qui était avant dans le vase.
C'est-à-dire, ça sera quoi qu'il en coûte, là, pour l'hôpital, comme l'a dit le président de la République ?
Mais je ne vais pas faire les négociations que Mme Nota et M. Véran vont faire à la place.
Vous êtes ministre du budget, c'est
nous
vous
allons,
qui avez les cordons
à la bourse. Prévu la revalorisation très importante du personnel soignant.
Quand ?
Vous dites vous-même que ça commande.
Non, mais après, sur le long terme.
C'était quoi l'acte 1 ? L'acte 1, c'était on décidait. Et vous dites qu'est-ce que ça change avec l'acte 2 ? C'est qu'on va discuter et concerter. Vous voyez, on progresse.
On pensait que ça avait déjà commencé la concertation. Question express.
Le grand jury. Question express.
Gérald Darmanin, pour ou contre l'abandon de la réforme des retraites ?
Ce n'est pas à moi d'en décider.
Et qu'est-ce que vous souhaitez, vous ? On l'entend, Laurent Berger dit qu'il faut arrêter, même s'il était.
Ce n'est pas à moi d'en décider.
Vous n'avez pas l'air très chaud pour la maintenir. Pour ou contre l'abandon de la réforme de l'assurance chômage ?
Vous pouvez me faire pour ou contre si vous le souhaitez. Je n'ai pas à moi d'en décider. Le président de la République va s'exprimer, me semble-t-il, dans quelques jours, dans quelques semaines. Il va prendre la parole. Je ne peux pas vous dire quand, mais il prendra la parole. Il prendra la parole sous la forme qu'il souhaitera. Je ne dicte pas les comportements du président de la République et il dira ce qu'il souhaite faire.
Et peut-être un nouveau gouvernement. Pour ou contre, Gérald Darmanin, le RSA pour les moins de 25 ans ?
C'est la proposition de Stanislas Guérini. Il y a beaucoup de difficultés chez les jeunes. Je pense qu'elle s'étudie. Je pense que le principal sujet pour nous, et je sais que Stanislas est d'accord, c'est d'abord de trouver un boulot pour les jeunes.
Pour ou contre, taxer les transmissions de patrimoine au premier euro ?
Ah non, je suis très défavorable à la fiscalité de transmission, que les plus riches payent, ça me paraît tout à fait normal. J'ai toujours pensé que quelqu'un qui travaille toute sa vie pour donner sa petite maison de 90 000 euros à ses enfants devait être taxé le moins possible.
Pour ou contre un jour férié en moins ?
La question se pose, je préfère faire le pari de quelque chose qui n'est pas centralisé jacobin.
Donc chaque entreprise se débrouillera.
Mais je comprends, il y a des propositions, elles sont intéressantes.
Les jours fériés, c'est très centralisé.
Et moi, je ne suis pas pour que Paris décide de tout le temps. Faisons confiance aux entreprises, aux syndicats pour discuter du temps de travail.
Le temps de travail également.
Mais les ordonnances de Mme Pénicaud permettent de le faire. Donc discutons, arrêtons de décider tout Paris.
Pour ou contre une dose de proportionnelle pour les prochaines législatives ?
J'étais très contre et je dois bien avouer que le système politique dans lequel nous sommes, où les gens se sentent moins représentés, me pousse à accepter une dose proportionnelle.
Pour les prochaines législatives, vous le souhaitez. C'est l'heure de questions nettes.
Le grand jury, questions nettes.
Bonjour Marie-Pierre Haddad.
Bonjour à tous, bonjour Gérald Darmanin. Bonjour. Alors vous avez expliqué en début d'émission que vous allez reverser votre indemnité de maire à la SPA, mais Bruno, lui, a réagi en direct et il y voit une incohérence de votre part. Vous voulez lutter contre les inégalités sociales d'un côté, c'est ce qu'il écrit, je le cite, mais de l'autre, vous privilégiez la SPA comme association. Est-ce qu'il n'y a pas une incohérence, Gérald Darmanin ?
Je ne crois pas. Les causes, il n'y a pas de concurrence entre les causes. La protection animale est une grande cause. Il y a plein de grandes causes, chacun le comprend. C'est la cause que j'ai choisie, et je suis très fier de l'avoir choisie.
Autre question, Marie-Pierre Haddad.
Oui, alors, vous avez été élu hier maire de Tourcoing, et donc des photos du conseil municipal ont été publiées sur Twitter par des journalistes, et on y constate que personne, à l'exception de Xavier Bertrand, ne porte de masque, et plusieurs internautes, comme Anne par exemple, ont cette phrase pour illustrer ces images. Il est écrit « Faites ce que je dis, pas ce que je fais ». Est-ce que vous jugez que le masque n'est pas indispensable dans ce genre de situation et que Xavier Bertrand en a trop fait ?
Non, je ne pense pas que Xavier Bertrand en a trop fait. Il n'était pas le seul à porter un masque. C'est dommage que tous les journalistes qui étaient là l'ont porté, pour tout vous dire. Et puis d'autres en portaient également.
Le conseil municipal.
Mais pardon de le dire aussi, il n'y avait pas d'obligation de port de masque pour élire les maires.
Pour vous, ce n'est pas indispensable ?
Moi, je fais ce que la République me laisse faire. Et il y a une part de liberté, il y a une part d'obligation. Quand il y a des obligations, je le fais. Quand il y a des libertés, on a le droit de choisir ce qu'on fait. Cependant, j'ai regretté. Et je le prends en tant que tel, puisque si je n'étais pas maire, je suis le maire. J'ai regretté qu'effectivement, au début de la cérémonie, quand les gens sont arrivés, pourtant on avait choisi un grand hall, il y ait ces rapprochements. Après, je crois que tout le monde a vu cette cérémonie qui était en direct, a été corrigée.
Autre question sur les EHPAD. Oui.
Les internautes ont déchanté en se rendant compte que les primes concernant par exemple ceux qui étaient en première ligne, notamment dans les EHPAD, qu'ils n'allaient pas les toucher en intégralité et que le décret pour ceux qui travaillaient dans les EHPAD n'était pas encore tombé. Donc quand est-ce que ce décret va être promulgué pour qu'ils puissent toucher leurs primes ?
Non mais le problème des EHPAD, c'est que l'État ne décide pas seul. Il y a d'autres intervenants, des communes, il y a des EHPAD à Tourcoing que je gère en tant que maire, et des départements. Donc il est normal que lorsqu'on est tout seul décideur, on aille plus vite que lorsqu'on est plusieurs. Mais avec les présidents de départements de France, avec les communes de France. Je sais qu'Olivier Véran, dans les prochaines heures, dans les prochains jours, aura l'occasion de sortir le décret.
Et concernant ces primes qui ne sont pas versées en intégralité, mais au prorata du nombre d'heures travaillées, est-ce que vous trouvez ça juste? Ça a beaucoup choqué justement ceux qui sont en première ligne, notamment les caissières.
Non, ça me paraît juste que ce soit à proportion des gens qui étaient au travail.
Mais au prorata de leur action.
Du nombre d'heures travaillées.
Le sujet, après.
Parce qu'on avait prévu 1000 euros.
Vous parliez des caissières, c'est le patron qui décide. Moi, je peux vous parler de ce que j'ai fait à la mairie de Tourcoing ou ce que nous faisons au ministère d'Économie et des Finances. Nous donnons pour ceux qui sont venus travailler.
Merci beaucoup Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics. Et qui sait, nous verrons dans le prochain gouvernement où il se situera. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine.